Hey, t'écoutes quoi en ce moment ?
Radio Cham.
Mais c'est quoi Radio Cham ?
La radio qui cuisine les ondes.
Bonjour et bienvenue sur Radio Cham. Nous sommes la classe de seconde STHR2 et aujourd'hui, nous allons évoquer nos souvenirs d'enfance à la manière d'Annie Arnaud dans la place.
Pendant l'été, j'ai passé mes vacances chez mes grands-parents dans la petite ville de Vertu. La maison se situait à l'écart, dans les hauteurs de la ville. Elle était entourée de vignes qui appartenaient à mon grand-père. Une grande maison avec un jardin où deux grands sapins étaient plantés. Il y avait un bâtiment à côté de la maison qui servait d'abri pour les engins agricoles. Au rez-de-chaussée de la maison, l'entrée communiquait avec la cuisine, le salon et la salle à manger. Et un couloir qui menait à une chambre, une salle de bain et aux escaliers pour monter à l'étage. L'étage était composé de deux chambres réservées aux enfants. Au rez-de-chaussée, la maison était calme, sans trop de bruit. Mon grand-père lisait le journal et ma grand-mère tricotait dans le salon. Tandis qu'à l'étage et dans le jardin, les enfants jouaient. Quelquefois, le mercredi midi, le facteur qui avait fini sa tournée et d'autres vignerons venaient manger. Les adultes mangeaient sur une grande table dans la salle à manger, alors que les enfants mangeaient sur une table à part dans la cuisine. On se sentait à l'abri dans cette maison. Au printemps, les feuilles des vignes étaient très vertes, alors qu'à l'automne, pendant une courte durée, les feuilles étaient rouges et oranges.
C'est une maison orange recouverte de briques accessible grâce à un escalier de trois marches en pierre dans la ville de Rouen, en Normandie, dans le quartier Saint-Hilaire, situé rive droite de la Seine, à 3 km du centre-ville. Cette maison est l'une des plus hautes de la rue, sans compter l'école où j'ai passé ma maternelle et ma primaire. Elle s'étend sur trois étages et un rez-de-jardin. Au rez-de-chaussée se trouve un couloir. En entrant, tout de suite à gauche, se trouve le bureau de mes parents. En retournant dans le couloir et en continuant à droite, se trouve la salle à manger et le salon. La vue de la salle à manger donne sur une grande vitre composée de plusieurs fenêtres où l'on voit le jardin et les trois quarts de la rive gauche. Le salon possède deux canapés, trois places, trois fauteuils avec une bibliothèque et une télé. En continuant le couloir, au bout arrive la cuisine, toute orange et pas bien grande. Le deuxième étage est composé de ma chambre, celle de mes parents, celle de ma sœur et d'une salle de bain. Le troisième étage est avec une pièce de rangement, un atelier de bricolage, la chambre de mon frère et une salle de bain. Il y a ensuite le sous-sol avec une salle de jeu, la cave, la buanderie et la véranda qui mènent sur un jardin avec un cerisier. Les gens qui habitaient cette maison sont mes parents et moi, quelquefois mon frère et ma sœur pour rendre visite une semaine ou pour point d'attache à leur travail. Certains y passaient aussi la nuit après un repas de famille car trop fatigués pour rentrer chez eux.
La maison que nous habitions en famille avec Ferdinand se trouve dans un faubourg résidentiel proche du centre de Rouen. Une maison construite à la fin du 19e siècle dans un quartier qui était alors industriel et populaire. Les nombreuses grandes fenêtres de ces quatre niveaux d'habitation sont résolument orientées vers le sud afin de capter au mieux la lumière parcimonieuse de la Normandie. On accède au rez-de-chaussée par trois marches et c'est à ce niveau que l'on trouve une grande pièce traversante qui nous servait à la fois de salle à manger et de salon. Une cuisine au sol carrelé orange et un bureau équipé d'un immense placard tout aussi orange. Au premier étage, deux grandes chambres et une belle salle de bain lumineuse, mais aussi la petite chambre jaune de Ferdinand dont la fenêtre donnait sur le jardin, juste au-dessous du nid des hirondelles. Au deuxième étage, une autre chambre sous les toits, une petite salle de bain mansardée dont la fenêtre s'ouvre sur le ciel et deux pièces utilisées comme grenier et encombrées d'objets disparates. Il faut redescendre tous ces escaliers, une bonne cinquantaine de marches pour arriver enfin au rez-de-jardin, avec sa cave, sa buanderie et surtout la grande bibliothèque où étaient rangés des centaines de livres. C'est de là que l'on accède à la véranda et au petit jardin en légère pente où au beau jour la famille se réunissait à l'ombre du grand cerisier.
Mes parents ont trouvé une maison de vacances avec une superficie de 125 mètres carrés dans lequel nous y avons habité avec ma famille pendant 7 jours. 7 jours où on a découvert dans la maison plusieurs pièces insalubres avec une vue sur la
forêt. On sentait l'humidité, les arbres avaient l'air immense, le silence était présent et inquiétant. Une table à manger, de couleur jaunâtre, l'extérieur de la maison sombre. Il y a très peu de maisons à côté de celle où nous nous trouvons, la maison est donc perdue dans la forêt. La maison dispose de 3 chambres de 12 mètres carrés, une salle de bain, un WC et une salle à manger. Étant donné que nous sommes une douzaine à habiter dans la maison, nous sommes 4 personnes par chambre, un WC et une salle de bain pour nous tous, ce qui n'est vraiment pas pratique. Nous devions attendre plusieurs dizaines de minutes avant de pouvoir aller aux toilettes. Dans la salle à manger, la table est trop peu élargie pour que nous puissions tous manger ensemble, donc les enfants mangeaient par terre. On avait une sensation d'impuissance. Les vacances n'étaient pas plaisantes car tout le monde ne pouvait pas profiter des vacances, donc les parents rejetaient la faute sur les enfants, ce qui créait des moments assez gênants. Dans les chambres, on était tous oppressés car nous n'avions pas assez d'espace pour pouvoir marcher librement. Mes cousins étaient très désordonnés, donc l'espace dans la chambre était très limité.
Dans l'Allier, au cœur de la campagne bourbonnaise, se trouve un très grand parc où j'allais voir les animaux et faire quelques attractions le mercredi après-midi après l'école avec ma mère et parfois mon petit frère. On faisait tout le tour du parc, parfois même plusieurs fois. On commençait toujours par les félins, on admirait les lions et les tigres en train de dormir. C'était très calme. Ensuite, nous allions voir les éléphants en passant sous le pont où quelquefois, quand il pleuvait beaucoup, le chemin était inondé et on devait monter sur les rondins de bois sur les côtés pour ne pas se mouiller les pieds. Après les éléphants, il y avait les pandas roux en face et les singes à gauche sur une sorte d'île. Ensuite, la route se séparait en deux. À gauche, on pouvait aller vers la mini-ferme. Ensuite, on voyait les ouistiti, les panthères, les lynx et il y avait même une grande volière avec plein d'animaux exotiques. À droite, on pouvait aller regarder les suricates. Ils étaient toujours très drôles. Ensuite, il y avait une passerelle pour aller voir les cerfs, les biches et d'autres animaux de la forêt. Au fond du parc, il y avait les autruches, les phacochères, les wallabies. Puis, on arrivait à la zone des attractions. Ici, il y avait toujours plus de monde et c'était moins reposant que de regarder et en apprendre sur les animaux. Maintenant, le point de vue de ma maman sur le parc.
Dans le département de l'Allier, au cœur de la campagne du Bourbonnais, se trouve un lieu complètement dépaysant, le Pal. On se gare sur le parking et nous voilà prêts à arpenter les allées de ce parc animalier d'une part et d'attractions d'autre part. Notre balade débute toujours du côté des animaux. La végétation évolue tellement au fil des saisons que parfois le paysage nous semble complètement différent. Nous apprécions le calme de cette partie du parc. Même en haute saison et malgré le nombre de visiteurs, nous avons l'impression d'être seuls. Le cheminement est souvent le même, les lions, les tigres, les éléphants, puis les suricates, et tant d'autres espèces qui évoluent dans de magnifiques enclos, spacieux, arborés, avec des points d'eau, et même de jeux pour certains. Si nous nous arrêtons pour lire tous les panneaux pédagogiques, la balade peut prendre des heures. Puis il y a cette superbe passerelle en bois, au-dessus du Yukonquad, nouvelle attraction à sensation. Auparavant, on trouvait de nombreux animaux dans cet espace, mais ce parc est toujours en quête d'évolution. Les attractions occupent toute l'autre partie du parc. C'est vivant, bruyant, et on rencontre toujours des connaissances au fil des allées. Nous avons passé beaucoup de temps dans ce parc, et l'endroit nous surprend encore.
Se situant à Thiers, ville noire d'après George Sand, reliant le parking de l'église et l'ancienne école, déjà devenue l'école de danse. Ce passage étroit, derrière l'église, débouchait sur une place qui, à gauche du chemin, avait une grande terrasse sur tout le long. De là, on pouvait admirer la ville. Le chemin se séparait, faisant le tour de l'école. Si on continuait tout droit, on se retrouvait directement à droite de l'école, face à de vieilles habitations, alors que si on prenait à droite, on tombait sur les ruines d'une annexe de l'église, avec une arche, où la nature, peu à peu, reprenait ses droits. Sur cette place se trouvaient 2 gros rochers, qui, faisant office de table et de chaises pour différents événements, pique-niques, rancards ou encore goûter. Cet endroit n'était ni triste ni gai. Il y régnait juste un calme doux, Pas un oiseau ne venait. Le sol était fait de terre battue. Aucune lumière naturelle n'aurait chauffé l'endroit, faute de l'école ainsi que des ruines. Un seul vieux lampadaire se chargeait de temps à autre d'éclairer la nuit. Cette place, où plus jeune ma mère nous emmenait, voire nous forçait, mes sœurs et moi, pour le goûter après l'école. L'endroit n'était pas très connu, juste assez pour que quelques personnes y promènent leurs chiens. Des personnes âgées, en quête de calme, venant se balader. Parfois, des tourtereaux, repartant furtivement, agaçaient que l'on occupe aussi bruyamment l'endroit. Maintenant, le point de vue de ma maman sur le lieu.
Il est des lieux que l'on rencontre par hasard et que l'on fait sien pour un court laps de temps, un jalon de plus. Retour sur une période avec ses fastes qui consistent à recueillir précieusement les sourires enfantins et les côtés sombres de la journée, à courir partout, jonglant entre les emplois du temps et l'entourage. Il fallait une trouée hors du temps pour se réfugier, moi et mes trois chérubines. Un lieu qui ne soit pas la minuscule maisonnette un peu sombre, ni les rues encombrées. Un lieu silencieux, secret, une sorte d'antichambre vers l'ailleurs. Au hasard de nos pas novices, soudain, derrière un arc roman, une remontée du temps où nos imaginations fécondes ont trouvé à s'employer. Petite placette, loin du vacarme et de la circulation, avec une vue vertigineuse sur quelques maisons, plus ou moins en ruine, en contrebas. De la pierre, çà et là, avec quelques inscriptions, des bancs érodés par d'anciennes conversations, idéal pour amener cartable, manteau et goûter, et s'asseoir un instant, loin du temps distendu. Écoutez les histoires. Ce que tu veux, des trucs drôles? Pas l'éternelle rengaine. T'as eu des notes? Non, juste, as-tu été heureuse? Et parfois, temporiser les énervements ou essuyer les chagrins. Et l'immense arbre, trônant tout de feuilles revêtues ou tout de branches décharnées selon les saisons, de prêter une oreille bienveillante à nos ébats en mots et en gestes. Chacune faisant selon son humeur ou ses rêves à venir. La benjamine gravissant des sommets, la cadette assise sagement avec un sourire tendre. L'aînée à la récolte de feuilles et de brindilles esselées. Puis le crépuscule, invariablement nous déloger plus ou moins vite de ce recoin et nous ramener plus sereines à nos labeurs quotidiens. Je me demande parfois si la place ne s'évaporait pas, sitôt l'écho de nos pas s'éloignant. J'imagine comme un décrescendo du lieu désinvesti, se tournant vers d'autres souvenirs à venir.
C'était une maison dans les tons orange et rose qui se situait dans la ville de M. Elle se trouvait dans une rue pavée, très propre et calme, entourée d'autres maisons équivalentes, mais aussi différentes par un ou deux détails. La devanture était séparée en deux, tout d'abord une partie avec la porte de garage, assez grande pour que deux voitures rentrent, côte à côte, et une autre partie avec des fenêtres, fermées par des volets bleu clair, ainsi qu'une porte d'entrée qui surplombait trois marches. Lorsque nous rentrions, nous arrivions directement dans la cuisine, avec un comptoir situé sur la droite et un escalier menant à l'étage à gauche. Au rez-de-chaussée se trouvait la buanderie, adjacente à la cuisine, le salon et des chambres. Le salon était au centre, séparé d'un couloir de la cuisine, et un couloir au fond de la pièce menait à trois chambres. Il y avait également une porte vitrée qui s'ouvrait sur un petit patio qui rejoignait le garage à l'étage. Nous trouvions une pièce, autrefois servant de bureau, remplie de souvenirs ramenés de multiples voyages. Il y avait deux autres chambres et une salle de bain. La plus grande des chambres était froide, avec des murs gris, un lit au centre, entouré de vide, avec pour seule décoration une peinture, souvenir futile d'un être disparu. Il n'y avait ni cave, ni grenier. Le seul semblant d'extravagance était une porte à l'étage, menant au toit du premier étage. Là était étendu le linge sur des cordes, tenant avec des pinces afin qu'il ne s'envole pas. C'était une maison grande, familiale, où l'on se rassemblait durant certaines fêtes. Elle appartenait à une grande tante et son mari, femme dévouée, travailleuse acharnée et qui chaque soir préparait un dîner différent en quantité suffisante. Le mari, quant à lui, était silencieux, un vieil homme que nous ne croisions que deux fois dans la journée. Tout d'abord, le matin, lorsqu'il lisait son journal sans regarder le monde alentour, en sirotant à son café. Puis le soir, pendant le repas. Parfois, nos cousins et cousines venaient pour prendre des nouvelles. Certains ne s'arrêtaient pas de parler, pendant que d'autres attendaient morosement de pouvoir partir. Certains voisins passaient afin de montrer hypocritement de la gentillesse en espérant qu'un jour on leur soit redevable d'une chose ou d'une autre.
À l'approche de mes 6 ans, il y avait toujours l'école de l'autre côté de la rue dans ma tête. Mon entrée en CP s'y est faite. La cour était grande, bordé par un grand mur blanc avec un grillage vert pour l'élever, qui se camouflait dans les feuilles des arbres l'avoisinant. L'école était composée de 3 bâtiments. La cantine se trouvait dans le coin gauche de la cour. Elle n'était pas bien grande, une cantine d'école basique. Les 2 bâtiments restants étaient les bâtiments des classes, recouverts de crépi marron clair. Des lignes de fenêtres aux 2 étages montraient l'intérieur des salles. Le plus petit bâtiment des 2 ne comptait que 2 salles occupées. Le reste n'était qu'une garderie et des salles inoccupées. L'autre bâtiment était plus grand. Le couloir du bas était en angle. À gauche de l'entrée se trouvait un semblant de salle de sport. Les toilettes étaient accessibles que par l'extérieur. Pour finir le rez-de-chaussée, il y avait toute une suite de petites portes et d'affiches colorées. L'escalier se trouvait dans le coin de l'angle en face de la porte d'entrée. L'escalier menait au milieu du couloir du haut, où il n'y avait que 4 salles de cours, une petite bibliothèque, une salle informatique où on n'allait que quelques fois par an. Cet endroit mêlait cris, pleurs et joie dans la cour. Il y avait les sportifs qui couraient partout dans la cour en jouant au foot. Les calmes qui jouaient dans un coin de la cour, à la marelle, aux poupées, ou qui tressaient des élastiques de couleur avec leurs doigts. Les professeurs, eux, étaient soit assis sur un banc attendant que le temps passe, ou ils marchaient dans la cour par 2 pour surveiller.
De mes 3 ans à mes 10 ans, j'ai étudié dans une petite école maternelle et primaire d'un petit village. Celle-ci se trouvait entre le bar et le coiffeur. Pour y entrer, il fallait d'abord passer par une petite place qui permettait de se rendre à la garderie, à la mairie ou à l'école. Après avoir monté 5 marches d'escalier, nous nous trouvions devant un petit portail vert qui donnait sur la cour de récréation. Cette cour était grande et divisée en 2. Le premier donnait sur la classe de grande section. Ce côté était en pente et c'était ici que l'on jouait au foot. Au bout de cette pente, nous pouvions voir que la cour avait été agrandie avec un peu de plat, où étaient disposés des bancs qui étaient tous aux couleurs primaires. La deuxième partie, elle, donnait sur les classes de petite section et de CP. De ce côté, on y trouvait des arbres, un petit train qui ne bougeait pas, disposé sur un sol orange, qui remplaçait ce qui était autrefois à bac à sable. Au fond de cette seconde partie, se trouvait un préau qui abritait les toilettes et une table de ping-pong. Depuis cette cour, nous pouvions entendre le bruit des voitures qui passaient dans la rue d'en dessous. L'école se dressait sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, nous avions accès aux classes de petite et de grande section et de CP que l'on atteignait directement depuis les portes qui donnaient sur la cour. Tandis que la classe de moyenne section et la salle de motricité, nous les atteignions en passant par un petit hall. Dans ce même hall se trouvaient des escaliers gris métalliques qui faisaient beaucoup de bruit lorsque nous les montions. À cet étage, nous trouvions les classes des plus grands, CE2, CM1 et CM2. C'était la seule école du village et elle était plutôt petite, donc tout le monde se connaissait, les parents, les élèves, les professeurs. Les enseignants étaient essentiellement des femmes, sauf le maître de CM2. Chaque fin d'année, les CM2, pour qui c'était leur dernière année, faisaient une bataille d'eau dans la cour. Lorsque nous étions en CM2, nous attendions tous cet événement et le moment venu, nous avions bien rigolé.
C'était dans mon école primaire à Reims. Elle était à environ 100 mètres de chez moi. Elle était constituée en 3 parties. L'école se situait au centre, tout en longueur. On jouait dans les 2 cours de béton gris qui entouraient le bâtiment. On pouvait y trouver de grands arbres verts d'un côté, avec des bancs en bois confortables pour discuter et des dessins multicolores au sol. Et dans l'autre, un terrain de foot jaune avec un jardin sombre dans le fond. Cette école était plutôt calme. On entendait le bruit des oiseaux et des enfants qui jouent. Il y avait aussi de grands poteaux qui maintenaient le bâtiment, ça nous faisait des préaux. Sur ces poteaux, on y trouvait des dessins faits par notre classe. C'était coloré et intrigant. Il y avait des personnages sur l'un, des pays sur l'autre, nos prénoms et bien plus encore. Ce moment de dessin nous a beaucoup rapprochés avec mes camarades et c'est un très bon souvenir qui revient à chaque fois que je repasse devant cette école.
Le lieu que je vais vous décrire est la maison de ma grande famille à Bamako-Mali. C'est un lieu que j'aime beaucoup. C'était une maison simple, sans étage, avec deux cours. Un cours qui faisait face au goudron avec un grand manguier qui produisait des fruits juteux et très sucrés quand ils étaient assez mûrs. Et un second où il n'y avait pas de manguier, mais où il y avait la cuisine et une grande terrasse. Dans les deux cours, les gens se réunissaient pour causer. Mais aujourd'hui, ce manguier a été coupé. Mais j'ai toujours la nostalgie de l'ancienneté de ce cours. Car aussi, dans ces deux grandes cours, il y eut construction. Celui qui faisait face au goudron, un petit appartement louable, et celui qui composait la cuisine, une petite maison avec un escalier à l'extérieur pour mon oncle qui venait de se marier. La maison était collée au milieu de deux magasins, un magasin de vente de crédit et de bus et téléphoniques, ainsi que d'un magasin de téléphone. Mais aussi, ce qui m'a marqué, c'était aussi la chaleur des gens qui étaient là-bas. Les gens, ils étaient très aimables et très gentils. Mais aussi, un événement qui s'était produit. On m'avait acheté un nouveau téléphone, mais le même jour, on me l'a volé. C'était un Samsung A11. Et pendant ce qui s'est passé, c'est que j'étais devant la porte de la grande maison. J'étais en train de coiffer ma petite cousine. C'est une dame qui nous a approchés avec ma petite cousine, avec... Une petite tante à moi qui a le même âge que moi. On était dehors, j'étais en train de coiffer ma petite cousine et du coup une dame nous approcha. Elle dit ah oui, mais tu tresses bien, j'aimerais bien aussi que tu tresses la tête de ma fille. Elle m'a montré des photos de modèles. Donc elle a dit à ma petite tante de l'accompagner chez elle, donc elle l'accompagne. Avec ma petite cousine, ils sont partis ensemble. Moi, je les ai attendus. Sauf que ma petite tante, elle était partie avec mon téléphone. Et donc, la dame l'a arrivé à un endroit. La dame a envoyé ma petite tante dans une maison, disant que tu dois partir dans cette maison. Tu dis mon nom et tu dis qu'il y a une dame là-bas qui me doit de l'argent. Donc, elle a dit, avant de partir, à ma petite tante de la remettre mon téléphone parce qu'elle va faire un snap vidéo, un TikTok. Donc, son téléphone ne marchait pas. Donc, ma petite tante, qui était naïve, elle lui passa le téléphone et partit dans l'autre maison. Une maison qui était à 1 kilomètre d'elle et là où la dame était. Donc, elle marcha très loin pour partir dans cette maison. Et elle partit dans cette maison. On lui dit qu'il n'y a personne de ce nom et que personne ne doit de l'argent à personne. Du coup, elle est sortie, sachant qu'elle avait laissé ma petite cousine avec cette dame. Du coup, elle est sortie pour aller voir. Elle a trouvé ma petite cousine assise sous un manguier. Et la dame, elle avait disparu. Et voilà, la dame, elle avait volé mon téléphone. Heureusement, la dame, elle n'avait pas kidnappé ma petite cousine. Donc, elles sont rentrées. Et ma petite tante, elle m'a dit, ah ouais, je suis désolée, mais on a volé ton téléphone. Je lui ai demandé comment ça s'est fait. Et elle m'a raconté cette histoire. Mais j'étais très triste. J'étais très, très triste. Mais mon oncle, il me consola. Et puis, il m'a acheté un nouveau téléphone qui était plus mieux que l'ancien, qui avait une valeur bien plus importante que l'ancien. Donc cela me touche énormément. Voilà, c'est ce que je voulais vous décrire. Voici ce même souvenir raconté par ma petite tante.
Bonjour, je me nomme Salmata Nyangali. Je suis la tante de Awa Napare. Elle a choisi de décrire la maison de son grand-père qui se trouve au Mali, plus précisément dans un quartier qui s'appelle Badalabougou. C'est une maison très simple qui contient une cour, un salon, 4 chambres, et un arrière-cour aussi, dans lequel il y a la cuisine et 2 toilettes.
C'était dans mon appartement au Cap d'Agde. Il était situé à environ 500 mètres de la mer. Pour accéder à mon appartement, il fallait monter une dizaine de marches qui nous rendaient au premier étage où il se trouvait. Il était composé de 3 pièces et d'une petite terrasse. La première pièce était juste devant la porte. Elle servait en quelque sorte de couloir. Il y avait dedans un meuble pour pouvoir y stocker les chaussures et il y avait un porte-manteau. En avançant un peu plus loin dans l'appartement, se trouvaient le salon et le coin dodo. Cette pièce était composée d'une petite cuisine où il n'y avait que certains appareils de nécessité. Elle était séparée d'un rideau qui rendait sur un clic-clac et un meuble où dessus se trouvait une télé. Derrière cette pièce, se trouvait la salle de bain. Sur la route, pour accéder à cette résidence, les odeurs de l'été, des palmiers ou encore des pins envahissaient l'habitacle de la voiture. Tout le monde était excité d'arriver à destination. Ce monde qui était dans la voiture était simplement ma mère, mon père et mon petit frère. Voici maintenant le témoignage de mes parents.
Alors le studio est situé dans une résidence qui s'appelle la résidence Capribali. Allée de la Flânerie, c'est l'allée qui mène à la plage du Mol, une allée très commerçante. Quand on arrive dans le studio qui est situé au premier étage, on arrive dans un petit hall d'entrée qui dessert une salle de bain et une pièce principale dans laquelle il y a une cuisine et un coin salon qui lui-même donne sur une terrasse sur laquelle on peut manger à quatre.
Étant petite, j'avais une jolie chambre colorée que j'aimais beaucoup. Les murs étaient blancs et bleus. Il y avait des posters un peu partout. Les rideaux qui étaient accrochés devant la fenêtre étaient blancs avec une touche de bordeaux. Il y avait un tapis au milieu de la chambre devant le lit. Mon lit se trouvait au-dessus d'un des posters. La couverture était blanche et noire, ainsi que les coussins. Devant le lit se trouvait une grande commode et sur celle-ci, il y avait toujours plein de parfums. Il y avait en face du lit un dressing avec à l'intérieur différents tiroirs pour ranger mes affaires. À gauche de cette dernière se trouvait mon bureau. En dessous du bureau, il y avait une petite étagère sur laquelle je mettais des livres. Cette chambre me faisait me sentir bien.
Voici un extrait de la place Zanni Ernaux. Ils ont trouvé un fond de café, épicerie, bois charbon dans un quartier décentré à mi-chemin de la gare et de l'hospice. C'est là qu'autrefois ma mère petite fille allait aux commissions. Une maison paysanne modifiée par l'ajout d'une construction en briques rouges à un bout, avec une grande cour, un jardin et une demi-douzaine de bâtiments servant d'entrepôt. Au rez-de-chaussée, l'alimentation communiquait avec le café par une pièce minuscule où débouchait l'escalier pour les chambres et le grenier. Bien qu'elle soit devenue la cuisine, les clients ont toujours utilisé cette pièce comme passage entre l'épicerie et le café. Sur les marches de l'escalier, au bord des chambres, étaient stockés les produits redoutants, l'humidité, café, sucre. Au rez-de-chaussée, il n'y avait aucun endroit personnel. Les cabinets étaient dans la cour. La vie d'ouvrier de mon père s'arrêtait ici.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les textes d'Annie Arnaud au CDI. À bientôt sur Radio Cham.
Hey, t'écoutes quoi en ce moment ?
Radio Cham.
Mais c'est quoi Radio Cham ?
La radio qui cuisine les ondes.